Nega News, le journal.
Merci de votre fidélité à la radio Nega News FM. Il est l'heure de vous informer. Bienvenue à l'écoute de cette grande édition du journal présentée par James Katoto Bizanonde par Bon Choix Daniel. Tout de suite, les grands titres. À Kélémy, la Société Nationale d'Électricité n'applique pas la surfacturation à ses clients comme font croire les structures de la société civile à la population. Mais par contre, la SNEL SA ne fait qu'exécuter les tarifs communiqués par le gouvernement congolais. C'est la précision donnée par le chef de centre de la SNEL Kélémy, Gilles Kiouya Malungu. C'est en juin 2023 lors d'un point de presse qu'il a animé avec la presse locale. Et puis nous serons à Baraka, au sud Kivu, où les commandants de l'escadron de la police lacustre de cette ville, le major Luago Blaise, vient d'assassiner par balle son policier connu au nom de Félix Kaunda dans son bureau de travail. La victime a rendu l'âme sur place et le major de la PNC a pris les larges vers une destination inconnue. Kachindi Anzuruni, depuis Baraka, nous en dira plus. Voilà, c'est tout pour le menu. Bienvenue messieurs, bienvenue mesdames. Je l'ai dit en titre, Akalemi, la Société Nationale d'Électricité, n'applique pas la surfacturation à ses clients comme le font croire les structures de la société civile à la population. Mais par contre, la SNEL SA ne fait qu'exécuter les tarifs communiqués par le gouvernement congolais. C'est la précision donnée par le chef des centres de la SNEL Kalemi, Gilles Kiouya Malungu, ce 20 juin 2023 lors d'un point de presse qu'il a animé avec la presse locale. C'est là en réponse aux revendications de la société civile locale qui clame déjà dans les rues la question de la surfacturation tout en appelant la population à la désobéissance d'honorer les factures d'électricité consommées. Gilles Kiouya précise que son institution n'a rien à voir avec les modifications car étant seulement exécuteur de la décision du gouvernement. Il invite les abonnés de la SNEL SA qui auront des inquiétudes d'aller se renseigner à la source qui est de suivre les messages dans Civisme. Gilles Kiouya, chef de centre de la SNEL Kalemi et dans ses propos recueillis par Paul Ilunga Boniface.
Ce n'est ni moi, ni la SNEL ici localement, ni la SNEL nationale qui sont les tarifs. Je crois que ça vient du gouvernement congolais. Vous comprenez que le tarif est fixé au niveau national par le ministère, alors que le code tarifaire est indiqué par la SNEL locale. C'est la SNEL qui passe pour dire ici il y a une activité commerciale, celle-ci a tel et tel type d'appareil dans la maison, cela n'a rien du tout comme activité, il a peut-être une ou deux, trois ampoules, etc. Il mérite telle ou telle catégorie. L'attribution des codes tarifaires est subjective, alors que la tarification est objective, parce qu'elle nous vient du gouvernement central. La facturation combine les éléments de la tarification, du code tarifaire et des dispositions électroménagères de chaque consommateur. C'est alors qu'on arrive à la facturation pour établir ce qu'on appelle la facture. Ça signifie qu'on ne peut pas parler de surfacturation. Hein, c'est un abus de langage. Quand est-ce qu'on parle de surfacturation ? C'est quand, par exemple, après avoir évalué votre consommation à domicile, vous êtes catégorisé dans la tranche de 1 à 5 kWh. Le mois qui vient, vous recevez une facture où on vous met 3,54 kWh estimé. Donc là, vous êtes surfacturé. Ça signifie que les éléments de facturation ne reflètent pas réellement votre rang social. Là, vous êtes surfacturé. Mais si vous êtes juste dans la tranche de 1 à 100 et que c'est la valeur de la facture qui change, là nous parlons de la modification tarifaire. Il y a un taux directeur dicté par la banque centrale. Vous allez facturer ce mois, la SNEL, la facture, 1 dollar à 2,78. Et nous nous intégrons dans la machine, dans le serveur, il imprime la facture. Alors, la grille tarifaire elle-même, hein, les ingrédients peuvent ne pas changer, mais du fait que le taux change, ipso facto, la facture va paraître plus chère que la précédente. Alors que les autres éléments de facturation, de tarification, n'ont pas changé, mais juste le taux. Il y a un compromis illicite entre nous, entre le consommateur et la SNEL. Même si il n'y a pas de compteur, donne-moi comme l'électricité, moi je veux l'électricité. Ce n'est pas un luxe, c'est un besoin. Alors en ce moment, la SNEL donne l'électricité, mais elle applique le régime forfaitaire. Et le forfait est établi sur base de quoi? De ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc en passant à la résidence de chaque consommateur, évaluer la charge dont il dispose, le catégoriser dans le tarif et le facturer. Que celui qui est mécontent, celui qui se sent lésé, vienne individuellement à la SNEL. Il sera renseigné et traitera tel qu'il a signé son contrat, son abonnement avec la SNEL. C'est une pratique strictement interdite de collationner les factures des clients dans un quartier, dans un secteur et venir jeter ça en bloc. c'est punissable par la loi. C'est une tentative d'insurrection sociale. Voilà les termes. Conseil à ceux de la société civile de ne plus le faire. C'est aussi votre rôle d'éducation. Parce que moi, si je me plaignais formellement, bien ces messieurs seront inquiétés. Il ne faut pas faire ça. C'est la rébellion. C'est la rébellion. Parce que la loi ne vient pas de moi, ne vient pas de la SNEL, elle vient du gouvernement congolais.
De l'espoir loin de chez soi pour un monde où les réfugiés auront toujours leur place. Et c'est sous ces slogans que le monde célèbre ce 20 juin, la journée mondiale pour les réfugiés. Les réfugiés burundais vivant au Tanganyika ont célébré cette journée en joie avec l'accompagnement du Haut Commissariat pour les réfugiés à Kalemi, avec l'aide de la Commission nationale pour les réfugiés SNR. C'est là dans le souci de renforcer leur inclusion dans la communauté du pays d'asile qui est la République démocratique du Congo. Reportage Paul Ilunga Boniface.
Cette journée, instaurée par l'Assemblée générale des Nations Unies, vise à porter une lueur d'espoir à ceux-là qui ont été contraints de quitter leur pays, quelle que soit leur raison, à trouver exil dans un autre pays. Elle vise en outre à conscientiser la communauté, à mettre au centre des solutions pour l'inclusion sociale, mais aussi de l'espoir aux réfugiés loin de leur pays d'origine, mais aussi inciter la volonté politique de promouvoir la paix et de trouver des solutions face aux multiples problèmes qui rencontrent le réfugié, comme explique Augustin Tagba, chargé des solutions durables au sein du ASR sous délégation du Grand Katanga.
Donc une journée que la communauté internationale marque pour pouvoir saluer ce groupe de personnes-là, mais également c'est l'occasion au cours donc du 20 juin d'interpeller la communauté internationale, d'attirer donc l'attention de chacun de nous et donc de la communauté internationale sur le capital humain et la nécessité, le capital humain que représentent bien sûr donc les réfugiés, c'est-à-dire que nous sommes dans un monde où les réfugiés auront et devront avoir toujours leur place.
Pour Bamwiki Célestin, président des réfugiés burundais au Tanganyika, cette journée symbolise l'espoir de vivre en communauté dans un pays d'asile qui n'est pas comme les autres.
Je suis tellement très content parce que c'est une journée spéciale pour les réfugiés, quel que soit les moments difficiles que nous traversons dans cette province, dans ce pays d'asile. Mais réellement, pour la journée d'aujourd'hui, nous sommes un peu satisfaits. Dans la province Tanganyika, nous sommes au moins 800 et plus de réfugiés. Il y a quelques-uns qui sont venus, je peux dire, depuis 94, depuis la guerre de M. Ndadaye. Vous savez les problèmes que nous avons. La RDC, c'est différemment des autres pays que nous sommes asile ici.
Cette cérémonie commémorative s'est clôturée par une ambiance des chants animés par quelques réfugiés burundais ayant pris part en signe d'immatérialiser un désir d'avenir qui s'enracine dans l'action.
Clôture ce mardi à Kalemi de l'atelier de formation des formateurs des policiers organisé par l'Organisation internationale pour l'immigration OIM dans le cadre de son projet de renforcement des activités de la police de proximité dans le Tanganyika. Il a été question pendant ces 6 jours de formation de former 30 formateurs dont 20 meilleurs apprenants seront retenus définitivement comme formateurs de l'ensemble des personnels policiers en province. Pour ces moments de clôture, le chef du bureau OIM Kalemi, Amadou Traoré, a dans son mot rassuré l'accompagnement de son organisation pour la bonne collaboration entre la population et sa police. On écoute Monsieur Amadou Traoré, chef de bureau OIM, au micro de Nelly Ngungwa.
Je voudrais vous remercier. Avant de vous remercier, j'aimerais tout le monde adresser les remerciements les plus sincères au professeur provincial qui est représenté par le conseil prisonnier pour l'engagement et la disponibilité et pour cette formation. Il a été là au début et je pense que j'espère que les bénévoles qui nous accompagneront jusqu'à la fin de cette aventure qui, je pense, sera une aventure meilleure. Nous voilà aujourd'hui devant nous, les formateurs avec des formateurs avec une connaissance de plus. Je le disais, une formation de même. Il n'y a pas de session de formation pour moi à son corps. Parce que tel que vous donnez, c'est comme ça que vous avez cédé. Les discussions autour des thèmes ici ont permis aux yeux aux autres d'avoir. Je voudrais aussi remercier nos mamans qui ont participé par la mémoire à cet atelier. Ils ont dit, quand vous êtes vécu un homme, vous êtes vécu une personne. Mais quand vous êtes vécu une femme, vous êtes vécu une nation. En tant que femme, vous êtes vécu une nation. Et donc, je voudrais les remercier. Et nous pensons que à travers vous, nous aurons également des sous-officiers qui seront meilleurs comme vous. Parce que quand on est bon et que vos enfants ne sont pas bons, je pense qu'on n'est pas bon.
Vivez l'actualité en continu sur Ndenga News sur 104.0 MHz. Votre radio de proximité.
En national, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a ouvert ce 19 juin 2023 à Kinshasa les travaux préparatoires de la table ronde devant examiner tous les contours de la problématique de l'état de siège décrété depuis le 6 mai 2021 par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri. Reportage Guillaume Goyamessi.
À cette occasion, le chef du gouvernement a appelé au sens des responsabilités et au patriotisme des participants pour l'approfondissement de la question en vue de produire un travail et une feuille de route qui doit permettre la bonne tenue de la table ronde. Cette dernière permettra d'orienter la décision du président de la République sur la requalification ou la levée pure et simple de cette mesure de l'état de siège. En effet, la République démocratique du Congo est victime depuis plusieurs décennies, dans sa partie orientale principalement, d'une agression de la part des groupes armés soutenus par le Rwanda, voisin causant ainsi une insécurité aux conséquences néfastes, incalculables sur le plan économique, social, sanitaire, environnemental, éducatif et autres. Depuis son accession à la magistrature suprême en janvier 2019, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'évertue à trouver une issue à cette question d'insécurité afin de redonner de l'espoir aux populations de la partie est du pays qui ne jurent que par les retours de la paix. C'est dans ce cadre que le chef de l'État a pris le 6 mai 2021 des ordonnances décrétant l'état de siège et ses mesures d'application.
Ces missions d'évaluation avaient pour objectif non seulement de permettre au gouvernement de la République de prendre en compte les avancées enregistrées, mais aussi de mesurer les défis qui restent à relever. Plusieurs recommandations, contenues notamment dans les différents rapports d'évaluation produits par les gouverneurs militaires, ont été à cet égard adressées au gouvernement de la République. Ces missions d'évaluation devraient également permettre au gouvernement de la République de recueillir sur le terrain des préoccupations majeures des différents acteurs sociaux, économiques et politiques dans les deux provinces placées sous l'état de siège.
Depuis, les gouvernements de la République travaillent sans relâche pour l'application de ces mesures. Et dans la foulée, le Premier ministre a effectué avec le Parlement et les autres partenaires au total 4 missions de suivi et d'évaluation dans le Nord Kivu et l'Ituri pour recueillir les préoccupations des parties prenantes et de toutes les forces vives en vue d'évaluer les avancées enregistrées et les défis qui restent à relever. Il faut relever que tous les ministères sectoriels, les services de sécurité, les partenaires extérieurs ainsi que les représentants des provinces concernées prennent part à ces travaux de Kinshasa qui iront jusqu'à jeudi prochain. Depuis Kinshasa, Guillaume Goyamissi, pour la radio Ndenga FM.
Pendant ce temps, toujours à Kinshasa, le chef du gouvernement congolais, Jean-Michel Samalukonde, a reçu en audience ce lundi la vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et australe, Victoria Kwakwa. Au centre de leurs échanges, le partenariat entre la RDC et cette institution de Bretton Woods qui doit être renforcé pour booster l'économie de la République démocratique du Congo. Guillaume Goyamissi revient dans cet élément de reportage.
Il s'est de noter que la Banque mondiale, dans le cadre de son programme IDA 20, a alloué au développement de la RDC un portefeuille de 9 milliards de dollars américains. Pour en bénéficier pleinement, la RDC doit accélérer la mise en œuvre des projets pour lesquels ils ont été alloués, notamment le financement de la gratuité de l'enseignement. Si Kinshasa ne parvient pas à les absorber en dehors cette période, d'autres pays demandeurs peuvent en bénéficier aux grandes dames de la RDC. C'est pourquoi le Premier ministre a tenu à en parler avec la représentante de la Banque mondiale en séjour à Kinshasa.
On a parlé vraiment sur comment est-ce qu'on peut renforcer notre partenariat, le partenariat entre la Banque mondiale et la RDC, pour qu'ensemble on puisse pousser davantage le développement du pays, pour qu'on puisse avoir beaucoup plus de résultats. À travers le projet que nous sommes en train de travailler là-dessus. Alors, c'est juste pour trouver des moyens, discuter des autres moyens pour être beaucoup plus efficace et avoir beaucoup plus d'impact dans le projet que nous sommes en train d'exécuter.
Cette haute fonctionnaire de la Banque mondiale a souligné qu'environ 5 milliards de dollars de ses portefeuilles restent encore à décaisser pendant que la période court vite.
Les ressources sont affectées pour financer le développement de la RDC. Et nous devons accélérer la mise en œuvre des projets pour lesquels ces ressources ont été allouée. Oui. Et nous espérons effectivement accélérer cette mise en œuvre pour que d'autres pays qui en sont demandeurs et qui exécutent plus vite ne les réclament pas.
Fondée en 1960, l'Association internationale de développement IDA est l'institution de la Banque mondiale qui accorde des dons et des prêts à taux faible ou nul pour financer des projets et des programmes de nature à stimuler la croissance économique, à réduire la pauvreté et améliorer la vie des plus démunis. L'IDA est l'une des principales sources d'aide pour les 74 pays les plus pauvres du monde, dont 39 se trouvent en Afrique. Ces ressources bénéficient concrètement à 1,3 milliard de personnes. Depuis sa création, l'IDA a mobilisé 496 milliards de dollars en direction des 114 pays. Depuis Kinshasa, Guillaume Goyamissi pour la radio Ndenga FM.
Ndenga News sur l'ensemble des territoires de la province du Tanganyika jusque dans la région du Grand Lac. La meilleure de l'information de proximité.
Les violences sexuelles liées au conflit est un fléau qui ronge le monde entier et plus particulièrement la RDC. Selon le constat de plusieurs observateurs, des milliers de femmes en sont victimes, surtout dans la partie est du pays suite au conflit armé interminable. En croire Madame Solange Loachiga du caucus des femmes du Sud-Kivu, les femmes sont devenues une arme de guerre en République démocratique du Congo. Elle a fait savoir ce 19 juin 2023 à l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences en temps de conflit, tout en demandant par la suite au gouvernement congolais de tout faire pour éradiquer ces fléaux et que justice soit faite pour les victimes. On l'écoute au micro de Jocelyne Baïga.
C'est-à-dire on brise les silences. Et quand on brise les silences, c'est-à-dire on dénonce, on interpelle. L'important c'est de dire, même si vous dormez dans des maisons dorées, sachez qu'il y a des milliers de femmes, des filles en République démocratique du Congo qui ne respirent plus parce qu'elles sont tenues en esclavage. Elles sont victimes de ces violences sexuelles et les viols en particulier en temps de conflit. Et donc elles sont victimes doublement, triplement. La guerre les décime, les viols, les violences sexuelles sont imposées à ces femmes et à ces filles. Et donc la célébration, c'est de dire les États doivent agir, les partenaires doivent agir, les parties au conflit doivent agir. Il y a moyen de trouver une solution à une revendication sans transformer les corps des femmes et des filles en champs de bataille.
Poursuivons ce journal toujours au sud Kivu où la population des Kamanyola en territoire de Walungu dit non à l'exportation des produits agricoles et c'est de première nécessité vers le Rwanda voisin. Cette décision a été prise lors d'une assemblée générale organisée par la société civile tenue le week-end dernier. Une situation qui a conduit la population des Kamanyola à descendre dans la rue tôt le matin de ce lundi 19 juin 2023 à la frontière entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Kashindi Anzoroni pour le reportage.
Faisant suite à la décision du gouvernement rwandais d'interdire l'exportation des produits agricoles vers la RDC, les habitants de Kamanyola en territoire de Walungu au sud Kivu se sont présentés en masse à la frontière de Kamanyola le matin lundi 19 juin 2023. Ils décident de l'interdiction de l'exportation de tous les produits agricoles de première nécessité de la RDC vers le Rwanda. Décision prise dans une assemblée générale tenue samedi 17 juin 2023 par la société civile locale. Les membres de cette structure citoyenne se sont mis d'accord pour interdire l'importation de toutes les denrées alimentaires de la RDC vers le Rwanda pour prévenir les risques imminents d'une famine aiguë dans ce village du territoire de Walungu, faisant frontière avec le Rwanda et le Burundi. Ces derniers déplorent par ailleurs d'observer que les Rwandais exploitent les champs sur les sols congolais et traversent aisément avec les récoltes dans leur pays. Entre-temps, à partir de ce lundi, aucun produit agricole ou même des denrées alimentaires ne pourront traverser la frontière pour aller au Rwanda. Reconnaissant que la place de la cohabitation relations pacifiques entre la population transfrontalière allait jouer un rôle pour le développement socio-économique dans la sous-région. Ces derniers regrettent que les autorités congolaises prennent des décisions sans tenir en compte. Pour rappel, certains Rwandais traversent chaque matin pour venir exercer les travaux ménagers et champêtres aux habitants de Kamanyola. De même que les habitants de Kamanyola qui se rendent à Buragama pour des raisons commerciales. Une dépendance mutuelle à laquelle les autorités allaient tenir compte pour l'émergence de la région. Des retours de Kamanyola. Kachin Dianzoroni pour la radio Ndenga News.
Et à Baraka, pour terminer, le commandant des escadrons de la police lacustre de cette ville, Major Luago Blaise, vient d'assassiner par balle son policier connu au nom de Félix Kaunda dans son bureau de travail. Le fait a eu lieu, c'est lundi 19 juin 2023 au quartier Mwemezi, aux environs de 19h. Selon des sources sur place, tous étaient dans un état d'ébriété quand la dispute qui aurait animé le major a tiré à bout portant sur son policier a éclaté. La victime a rendu l'âme sur place, précise nos sources, et ses majors de la PNC a pris les larges vers une destination inconnue. Cette information est confirmée aussi par les commandants du commissariat de la police territoriale de Fizi Baraka, Jean-Jacques Moulumba Mwenda, au micro de Kachindi Anzoroni.
Évidemment, c'est un drame que je déplore, le major Luango Blaise, parce que de celui qu'il s'agit, commandant escadron police de la Kiste, de la ville de Baraka, a tiré sur les policiers Simbwai, Kahunda, Feli, tous étaient dans un état d'ébriété. Ils ont pris des boissons fortement alcoolisées. Après les disputes, le major a jugé bon de tuer les policiers. D'une manière brève, c'est comme ça que l'événement s'est passé.
Et est-ce que les majors, c'est-à-dire les criminels, est dans les mains du service de sécurité, c'est-à-dire la police, ou non? Il a pris les larges.
Oui, il a pris les larges, mais on mettra la main sur lui. Nous avons des pistes, et d'ici là, on va mettre la main sur lui.
Vous, en tant que la police, autorité, quel message que vous lancez à la population de Fizi, particulièrement aux agents de la police?
Oui, j'appelle la population au calme. Nous sommes très sereins que nous allons continuer notre travail. Tous les policiers qui seront pris dans ces pièges-là, l'ivresse manifeste et publique, seront toujours arrêtés. Et pour ceux-là qui vont récidiver, ils seront envoyés à l'auditorat militaire.
Et voilà, c'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous d'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur le www.radiodenganews.net, mais aussi sur nos antennes. Merci, on se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Au revoir et surtout, bonne suite de la soirée chez vous.